Ça s'en vient, ça s'en vient. Voilà. OK, bonjour tout le monde. Et ça dort, hein? Ça dort au gaz. Alors, bienvenue dans le cours La Bible, livre humain ou divin. Vous avez des feuilles de notes disponibles près de l'entrée. Vous pouvez trouver sur notre site web les notes en PDF et puis les fichiers audio aussi. Donc, vous pouvez vous joindre au cours comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé justement à découvrir un peu le cours, puis découvrir l'Église même à travers des cours. Et puis, je vous mentionne aussi, si vous vous joignez au cours, vous pouvez ajouter votre nom sur la liste d'envoi. Il y a une tablette pour ça sur la petite table près de l'entrée. La semaine prochaine, moi, je vais être absent, mais il va y avoir un cours parce que ça va être Maître Gibault. Ça va être Samuel Gibault qui va me remplacer. Et donc, le cours va se poursuivre, d'accord? On avait 6 ou 7 grandes questions qu'on adressait, alors ne manquez pas la semaine prochaine avec Samuel. Il va vraiment poursuivre avec le même matériel, adresser la prochaine question sur les Écritures. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière, puis on commence. L'Éternel, notre Dieu, merci pour ce temps ensemble. À étudier, Seigneur, l'histoire de ta parole, l'histoire de la formation du canon des Écritures, Seigneur. Seigneur, merci pour ta main souveraine qui a su préserver tes saintes Écritures, les amener jusqu'à nous. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies à travers ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit en nous, Seigneur, avec cet outil extraordinaire. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs encore une fois ce matin, de nous éclairer, de nous instruire, de venir affermir notre confiance, notre assurance dans ce livre, Seigneur, comme un livre divin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, vous allez le voir, vous allez le remarquer au cours des dernières semaines, donc sur le cours. Comme je l'ai mentionné à d'innombrables reprises maintenant, le cours était séparé en deux parties. Et la première partie du cours, c'était sur la perspective des chrétiens sur la Bible. Ou en d'autres mots, qu'est-ce que la Bible dit sur elle-même, comment les chrétiens voient la Bible, tout ça. Mais on n'était pas dans la défense de la Bible. Maintenant, on est dans cette partie-là. Puis ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que pour certains d'entre vous, ça va peut-être apparaître technique, tout ça. Peut-être moins édifiant, dans le sens que, oui, on n'est pas nécessairement dans des passages des Écritures, puis on ne tire pas des choses comme ça. On est en train d'affirmer notre conviction que ce livre-là est bel et bien de Dieu, que Dieu l'a préservé, que Dieu nous l'a transmis. Et on est en train aussi de s'équiper pour pouvoir répondre à toutes sortes de questions super intelligentes que les gens nous posent justement sur la Bible. D'accord? Mais je tenais juste à le mentionner parce que quelqu'un qui joint au cours maintenant, peut-être vous allez dire après 2-3 semaines de cette portion-là, « Ouais, c'est moins spirituel. » Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on parle de la Bible en étant un peu moins dans la Bible. D'accord? Pour les leçons spirituelles qu'elle a à nous apporter, c'est un peu plus technique. Alors, ce matin, juste vous mentionner, il nous manque notre micro main libre sans fil. Donc, je vais prendre des questions, des commentaires. Je vais vous demander d'être plus court qu'à l'habitude parce que je vais les répéter moi-même dans le micro ici. Je veux juste être un petit peu plus sensible au fait qu'il y a effectivement des gens qui suivent l'ensemble du cours sur les pistes audio seulement, possiblement. Est-ce que la sélection des livres qui forment le canon des Écritures n'était qu'une joute politique? D'accord? Alors, la semaine dernière et la semaine précédente, nous avons adressé la question des manuscrits et de la transmission. Dans quelle mesure est-ce que la version de la Bible qu'on a entre les mains, on parle dans le grec, dans l'hébreu, d'accord? Dans quelle mesure est-ce que c'est fiable ou probablement fiable aux textes originaux? On a répondu à cette question-là dans les 2 dernières semaines. Maintenant, qui a présidé à la sélection des livres? Est-ce qu'il y avait d'autres livres spirituels, d'autres livres chrétiens, juifs, tout ça, qui sortaient à la même époque? Et qui a présidé à la sélection de ces livres-là? Comment ça s'est fait, ça? Est-ce qu'on a découvert une grotte un certain jour, puis on s'est présenté devant la grotte, puis on a dit « Shazam », on a ouvert ça, puis on avait le corpus complet des 66 livres intégrés, sans jamais savoir qui les a mis ensemble, de quelle manière ça s'est fait? Eh bien non, ça s'est pas passé comme ça, d'accord? Quoique, pour l'Ancien Testament, on va voir qu'on ne sait pas trop, d'accord? Mais donc, comment est-ce que ça s'est fait? Parce qu'une question qui est souvent posée, ben, de différentes manières, Par exemple, au haut de la page 1, comment s'est faite la sélection des 27 livres du Nouveau Testament? Qui a dirigé cette décision? Comment savoir que les livres qui s'y retrouvent sont bien ceux qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu? Écoutez bien ceci, et qu'il ne nous en manque pas certains. C'est une bonne question. L'Église chrétienne a-t-elle caché certains ouvrages qui nous auraient éclairés davantage? Est-ce que, comme ça a été proposé dans un peu de la littérature populaire, des choses comme ça, l'Église aurait caché certains ouvrages pour présenter Jésus dans l'angle qu'il voulait, avec une vision qu'eux autres voulaient? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà étudié un peu, qui ont lu sur la formation du canon? Juste pour me donner une idée. 1, 2, 3, 4, 5, oui? OK. Donc pour vous, ça va être un peu de la révision ce matin. Je vous avertis, peut-être que vous allez avoir quelques informations de plus. Mais c'est quand même une question importante. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu à discuter de cette question-là avec des gens qui posaient des questions sur la Bible? Oui? Oui? Il y en a d'autres? 2, 3, oui? 4, OK? Si vous allez sérieusement dans une discussion sur les Écritures, à tout le moins, si vous êtes en conversation avec des Occidentaux, post-chrétiens, post-modernes, tout ça, d'accord? On s'en va là assez rapidement. C'est vrai que si on discute avec certaines personnes qui vont venir d'autres régions du monde, des fois, ça va, c'est un livre saint. On l'accepte, on le reconnaît comme un livre saint, d'accord? Alors, j'y vais encore une fois avec une déclaration de M. Bart Ehrman qu'on a citée dans les deux dernières leçons. Voici justement la perspective que lui donne de cette question-là, qui là parle pas de hasard, il parle plutôt même d'une démarche machiavélique de l'Église dans un sens où on a réécrit l'histoire. Les vainqueurs écrivent l'histoire, on dit, mais voici ce que lui propose. Dans la lutte pour définir l'orthodoxie chrétienne, qu'est-ce que les chrétiens croient? C'est quoi le cadre? Les vainqueurs ont non seulement gagné les batailles théologiques, mais ils ont aussi réécrit l'histoire du conflit, de telle sorte que les lecteurs de l'histoire du christianisme ont déduit, c'est lourd comme phrase, que ces positions furent celles de la vaste majorité des chrétiens, depuis le fondement de l'Église, remontant jusqu'aux apôtres et à Jésus-Christ lui-même. En français, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a eu plusieurs conciles au cours des premiers siècles. Dans ces conciles-là, il y a eu des débats au 3e, 4e, 5e siècle. Il y a eu des débats, il y a eu des mouvements qui sont sortis, selon l'histoire écrite par les chrétiens, il y a des mouvements qui sont sortis de l'Église, des sectes chrétiennes qui, par exemple, certaines d'entre elles refusaient de reconnaître la divinité de Christ. D'autres, ça a été toute la mouvance mystique gnostique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer pour me dire c'est quoi la... Une pensée gnostique, c'est quoi? C'est quoi le gnosticisme? Qui n'est pas l'agnosticisme. Oui, David? OK, mais je vais répéter de toute façon pour... Pas l'agnostique, le gnosticisme. OK, ça c'est l'agnosticisme. Fait que je vais juste apporter une clarification. Justement, c'est ça... C'est ça ma question. D'accord, un agnostique, puis je viens au gnosticisme après, un agnostique, c'est quelqu'un qui dit possiblement que Dieu existe, possiblement qu'il est là quelque part, mais il nous est impossible de le connaître. Agnostique, agnose, gnose, ça veut dire connaissance, impossible de le connaître, il ne s'est pas révélé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne suis pas athée, ça ferait du sens qu'il y en ait un, mais on n'a pas vraiment de manière de le connaître parce qu'il ne s'est pas révélé à nous. Ça, c'est un agnostique. L'agnose ou le gnosticisme, tu veux-tu y aller, Sam? Cette valeur, tu n'as pas de micro, c'est un bon résumé. Merci. Alors, le gnosticisme, c'était une vision très, très mystique. Lorsque je parle de mysticisme, on parle d'expérience religieuse. Dans un sens, tout chrétien qui a une vie de prière active vit un certain mysticisme, dans le sens qu'il y a une part de mystère où je ferme mes yeux, puis je commence à parler à Dieu, puis je le vois pas, tu sais. Donc, dans un sens, ça fait partie de la vie chrétienne. On marche par la foi, non par la vue. Mais lorsqu'on parle de mysticisme, on va parler généralement de gens qui vont vivre une expérience spirituelle très, très forte. Et le gnosticisme, ce qu'il disait, c'est que Jésus était venu apporter une révélation d'une pensée mystérieuse. Une pensée mystérieuse qui se met même pas vraiment dans des mots. D'accord? Et donc, c'était un cercle d'initiés. Samuel a fait un excellent résumé. C'était un cercle d'initiés qui entrait en contact avec cette gnose-là, cette connaissance-là que Jésus avait apportée par une expérience mystique. Et ils arrivaient comme à un autre palier de connaissance, d'accord? Et c'était une poursuite de la perfection qui se faisait là. C'est une secte qui est sortie en partie du christianisme, mais qui est en train d'apparaître dans la culture grecque à l'époque, d'accord? Et qui s'est emparée de certaines notions qui étaient là. Il y avait vraiment ce Messie qui est venu se révéler, hein? La Bible nous dit d'un Messie qui était caché, qui est venu se révéler. On voit ça dans le cheminement de Jésus où de plus en plus il se révèle. Alors, ils sont venus prendre ça. Puis ce Messie-là, dans le Nouveau Testament, nous dit qu'il va nous envoyer l'Esprit, qu'il va nous révéler, qu'il va nous faire connaître. Oh, OK, ça ressemble à notre affaire. Donc, il y a eu une espèce de mélange qui s'est fait là. Et cette secte-là est apparue. Et donc, il y a eu des conciles, c'est-à-dire que des chefs d'églises importantes de l'époque se sont réunis ensemble, des évêques. On avait déjà une structure d'évêques qui ressemblait un peu à ce qu'on trouve dans l'Église catholique, un évêché, qui est différent de ce que la Bible enseigne. Dans la Bible, un pasteur, un ancien évêque, c'est strictement la même chose. Donc, je suis évêque, même si ça fait weird. Mais donc, à l'époque, il commençait déjà à y avoir cette idée-là d'évêques qui étaient comme des super pasteurs de grosses églises qui défendaient la vérité. Époque de persécution, on se rassemblait autour des grosses églises, tout ça. Et donc, il y a eu des conciles avec ces évêques-là et puis avec les pasteurs. Et puis, on adressait des questions où des gens commençaient à sortir des enseignements qui n'étaient pas conformes avec les enseignements de Jésus puis les enseignements des apôtres, d'accord? Et ce que Bart Ehrman est en train de suggérer ici, c'est qu'en réalité, dans tous ces débats-là, mais finalement, l'histoire qui s'est rendue jusqu'à nous, c'est celle des vainqueurs. Ceux qui ont gagné. Donc, si on pense que Jésus est Dieu le Fils, c'est parce que ce sont ceux qui étaient contre Marcion, admettons, qui ont gagné. D'accord? Il y a eu toutes sortes de mouvements, le martianisme, tout ça. On ne peut pas voir toutes ces choses-là, d'accord? Mais donc, ils vont dire, ce que lui va dire, c'est que ce sont les vainqueurs des conciles qui ont réécrit l'histoire. Ça va? Ce serait possible. Donc, la question, c'est est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est eux qui ont présidé à la sélection des livres du Nouveau Testament, par exemple? D'accord? On va chercher à répondre à cette question-là dans les 30 prochaines minutes. C'est une très bonne question. S'appuyant sur ce raisonnement, Ehrman s'interroge ensuite sur le destin qui fut réservé aux livres qui se réclamaient des apôtres, mais qui ne furent pas reconnus. Donc, est-ce qu'on a d'autres livres? Par exemple, est-ce qu'il y aurait un évangile selon Thomas qui existerait? Est-ce qu'il y aurait un apocalypse de Pierre qui existerait? Oui et oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Pierre qui l'a écrit? Est-ce que c'est Thomas qui l'a écrit? Est-ce que ça a été écrit à la même époque? Est-ce que ça ne devrait pas faire partie du Nouveau Testament? Ce sont ces questions-là auxquelles on va répondre ensemble ce matin. Ces affirmations de Bart Ehrman ont de grandes et graves implications. Parce que dans le fond, tout ce qu'on a discuté dans les deux dernières semaines, ça devient vraiment pas important. À savoir si à travers les siècles, ça a été bien transmis, bien si dès le début de l'Église, par exemple, il y a des manipulations qui ont été faites, puis on a éliminé, on a tassé des livres qui auraient dû être là. Après ça, ce qu'on transmet, c'est plus ou moins important. Est-ce que ce qui est transmis est fidèle dans le travail des copistes? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Malheureusement pour M. Ehrman, ou heureusement pour l'orthodoxie chrétienne, il n'en est rien. Comme le mentionne M. Blomberg, et ça c'est super important, je vous dirais, si vous retenez juste ça, c'est le plus important pour le cours. Il y a un très, très grand nombre de théologiens libéraux. C'est important. Lorsqu'on parle de théologiens libéraux, il y a toutes sortes de mouvances dans ça, mais ce sont souvent des gens qui vont remettre en question, par exemple, l'inhérence des Écritures, remettre en question le fait qu'il y a eu des miracles, des choses comme ça. Pourtant, il y a un très, très, très grand nombre de théologiens libéraux et conservateurs, d'accord, qui situent la rédaction de tous les livres du Nouveau Testament au premier siècle ou dans un ou deux cas au tout début du deuxième siècle. Ça va? Retenez ceci. Et c'est intéressant de noter que les livres polémiques, donc les livres qu'on aurait soi-disant tassés du Nouveau Testament, d'accord, portant sur une théologie gnostique, par exemple, ou fantaisiste, qui conduisent certains à suggérer que la théologie de Jésus ne ressemblait pas vraiment à la théologie chrétienne, ont été rédigés entre le 3e et 5e siècle. D'accord? Et vous n'avez pas des théologiens libéraux ou conservateurs qui vont dire, non, l'Évangile selon Thomas, ça a été écrit en 70. Il n'y a personne qui essaie de défendre ça. D'accord? Donc, les livres qu'on a dans le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, ont été rédigés à l'intérieur du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Les autres livres qu'on a soi-disant tassés ont été rédigés entre le 3e et le 5e siècle. Ça, c'est super important. Parce qu'à un moment donné, on va se poser la question, ben, si les chrétiens ont manipulé la théologie pour nous présenter un autre Jésus que le vrai Jésus, comment est-ce qu'on peut le savoir? Probablement que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'aller étudier les textes nous-mêmes. Les textes qui ont été rédigés dans le 1er siècle pour voir c'est quoi que ça raconte. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ça me semble tout à fait logique. Alors, on commence par l'Ancien Testament. Juste vous mentionner, sur les livres que vous avez dans votre Ancien Testament, dans votre Bible, il y a très peu de discussions à savoir si ces livres-là devraient être présents ou non. D'accord? Et la raison pour ça, c'est que ce canon-là, ce recueil-là de l'Ancien Testament, les Juifs l'ont reconnu comme depuis toujours. Je vais prendre une mauvaise expression qui n'est pas tout à fait juste, mais ça remonte à la nuit des temps. L'époque où les Juifs avaient ces livres-là en bloc, puis ils disaient ça, c'est les livres inspirés de Dieu. Il n'y avait pas de débat parmi les Juifs sur cette question-là. Et ce canon-là, on l'a hérité des Juifs. On a très, très peu d'histoires à savoir, est-ce que, par exemple, généralement, on attribue à Moïse le Pentateuque. C'est ça le plus probable. On n'a pas un sceau, on n'a pas fait de test d'ADN avec Moïse, d'accord? Donc, on n'a pas une absolue certitude, mais généralement, on l'attribue à Moïse, que les Juifs font aussi. Là, tu as le Pentateuque, après ça, tu as les prochains livres. À quel moment tout ça s'est mis à circuler ensemble, puis on a dit, voici l'Ancien Testament. Est-ce que les prophètes, dès qu'ils finissaient un livre, ils mettaient ça dans la poste, ils envoyaient ça au Saint-Siège, puis du judaïsme, puis à cet endroit-là, on mettait l'imprimato. Il n'y avait pas ça. Donc, comment ça s'est fait, tout ça? On ne sait pas, on a hérité de ce corpus-là de l'Ancien Testament comme ça. Et pour eux, ça n'a pas été discuté, ça. Ça va de soi pour eux. Tout à l'heure, on va aller voir quelques preuves internes aussi là, qui nous aident en plus de ça à l'accueillir. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il y a des débats. Vous n'allez pas tomber sur de la littérature qui vont vous dire « Deutéronome ne fait peut-être pas partie des livres inspirés de Dieu. » Vous ne tomberez pas là-dessus. Il va y avoir des questions à savoir c'est qui l'auteur. Est-ce que c'est vraiment Moïse? Est-ce que c'est lui qui a écrit tout ça? Ça, c'est tout un autre débat, d'accord? Mais là, on est en train de parler qu'est-ce qui a formé le canon. Donc, il y a certaines personnes qui, partant du raisonnement de Bart Ehrman, qui dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, qui ont dit bien, c'est la même chose pour l'Ancien Testament. Le problème, c'est que c'est une affirmation gratuite, d'accord? Parce que on n'a aucun indice de ça. On n'a aucune preuve. Il est arrivé comme ça, le corpus, pour autant qu'on peut remonter dans le temps. Puis on ne trouve pas chez les Juifs qui nous l'ont transmis des débats entre eux. Ils ont toujours pris ça pour acquis. D'accord? Donc, quelqu'un qui va dire, bien, c'est encore une fois, c'est les vainqueurs. C'est une affirmation gratuite. Il ne peut pas démontrer ça d'aucune manière. Il n'y a pas d'indice qu'il y aurait eu une espèce de jeu comme ça. Alors que, dans le cas du Nouveau Testament, c'est vrai qu'il y a eu quelques débats. Comme je vous dis, admettons, il y a eu des sectes gnostiques qui auraient bien voulu que certains écrits fassent partie du corpus du Nouveau Testament. Ça n'a pas été le cas pour l'Ancien Testament. D'accord? Donc, c'est un petit peu, pour ce qui est de l'Ancien Testament, c'est une discussion qui est un peu creuse de ce côté-là. Les choses qu'on va trouver, les nuances qu'on va trouver, c'est dans quel ordre les livres sont présentés. D'accord? Donc, les Juifs leur donnaient d'une certaine manière, l'Église leur donnait d'une autre manière, les protestants d'une autre manière. On s'est rapproché de l'ordre que les Juifs avaient donné. Oui, François. Les livres apocryphes, absolument. On arrive là. On s'en vient en plein là. Merci, François. François soulève la question des livres apocryphes ou qu'on appelle aussi certains d'entre eux des pseudépigraphes. On arrive là, d'accord? C'est une excellente question. Donc, sur la formation du canon, ça va être plutôt l'ordre, comment est-ce qu'on les désigne. On va parler de la loi et des prophètes, la loi, les prophètes, les écrits, d'accord? Je vais aller un petit peu vite, là, parce que le temps file, puis je vais être certain de couvrir ma leçon. Ça va être plutôt sur des choses comme ça qu'il y a des discussions, mais ça affecte pas l'inspiration ou non, puis la qualité ou non des livres qui sont présents là, de la sélection de ces livres-là. Une des choses qui peut nous aider à apprécier ça, puis comprendre pourquoi les Juifs, pour eux, c'était évident que ce livre-là était d'un seul bloc, c'est que le livre se tient d'une manière exceptionnelle. Lorsque je prends l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, il y a une unité dans le récit, il y a un récit qui se tient d'une manière incroyable. Le document fondateur, c'est le Pentateuque, d'accord? Vous voulez comprendre l'Ancien Testament, c'est impossible de comprendre l'Ancien Testament si vous n'êtes pas relativement familier avec les cinq premiers livres de la Bible. D'accord? Celui qu'on appelle généralement comme la loi, la section qu'on appelle la loi, c'est beaucoup plus que la loi. Il y a des récits narratifs là-dedans, il y a de l'histoire, des choses comme ça. Mais c'est vraiment le texte fondateur. Et tout le reste de l'Ancien Testament est toujours en train de parler en référence avec ça, avec les cinq premiers livres de la Bible. Constamment. D'accord? Puis j'irais plus loin que ça. Le reste de la Bible au complet travaille par rapport au Pentateuque. D'accord? Vous prenez juste le Nouveau Testament, vous enlevez le Pentateuque, il y a plein de morceaux super importants qu'on saisit pas du tout. Mais donc, il y a une unité dans cette collection-là d'ouvrages qui est exceptionnelle parce que ça a été écrit par de nombreux auteurs sur une longue période de temps. Et il y a cette espèce d'unité-là incroyable qui est présente. D'accord? Là où il y a des discussions, les livres apocryphes, les livres pseudépigraphes. Alors, il y a une grande quantité de littérature dans la période qu'on appelle la période intertestamentaire, d'accord? Ou qu'on appelle des fois les 400 ans de silence. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, lorsqu'on situe à quelle époque il a vécu tout ça, Malachi, et puis le premier des quatre évangiles, on a environ 400 ans qui sont là. Les Juifs, généralement, voyaient cette période-là comme une période sans prophète. Probablement qu'il y a eu des prophètes parmi les Juifs, mais pas des prophètes assez reconnus pour qu'on dise « il vient de Dieu, on le reconnaît, on veut ses écrits, on veut les mettre là, on va les ajouter au canon. » D'accord? Lorsque vous allez lire dans la littérature juive, ils vont faire référence à cette portion-là de 400 ans comme la période sans prophète. Mais les Juifs ont continué à vivre pendant cette époque-là. Et donc, il y a des écrits qui ont continué à être publiés. Presque tous les ouvrages qu'on appelle les ouvrages apocryphes, pseudépigraphes et d'autres qui ne sont pas inclus dans ça, d'accord, ont été rédigés dans cette période-là. Jamais les Juifs ont vu ces ouvrages-là comme des ouvrages qui faisaient partie du canon de la Bible juive, si je peux dire. D'accord? Vous ne trouverez pas des Juifs qui essaient de dire que Maccabée est inspiré de Dieu. Ça faisait partie de leur littérature parce que ça faisait partie de leur histoire, ça faisait partie de leur littérature parce que il y a certains de ces livres-là sont très édifiants, très intéressants, il y a de l'information. Il y en a qui sont très fantaisistes, il y en a qui sont très hérétiques aussi, d'accord? Il y a des enseignements qui sont franchement non bibliques dedans, d'accord? Mais oui, les rabbins faisaient référence à un certain nombre de ces ouvrages-là. De la même manière que je vais être en train de prêcher, puis je vais faire référence à un livre que j'ai lu cette semaine, qui est inspirant, d'accord? Puis des fois, je vais faire référence à un ouvrage qui est plus important encore. Si je vous parle du voyage du pèlerin, bon, mais OK, là, c'est quelque chose dans l'histoire du christianisme. Le voyage du pèlerin, c'est un ouvrage majeur pour nous, cette affaire-là. Bon, mais il est cité plus souvent que bien d'autres ouvrages dans des prédications, d'accord? Bon, mais c'est un petit peu la même chose. Alors, pour les Juifs, ces livres-là, je vous donne quelques noms ici, là. Si vous allez au bas de la page 2, les livres apocryphes, ceux d'épigraphes de l'Ancien Testament, voici quelques titres, Maccabée, Judith, Tobie, Ecclésiaste, Prière de Manassé, il y en a des livres, d'accord? Ces livres-là n'ont jamais été reconnus par aucune branche du judaïsme comme faisant partie du canon. Et c'est seulement l'Église catholique qui est à la période de la Réforme. Là, on parle du 16e siècle, d'accord? C'est seulement l'Église catholique qui, à la période de la Réforme, a jugé important d'affirmer la canonicité, c'est-à-dire qu'il devrait faire partie, que c'est des livres inspirés par Dieu, sur certains de ces ouvrages-là. L'Église catholique, à travers les siècles qui ont suivi le début du christianisme, ont commencé à l'épuiser dans ces ouvrages-là. D'accord? Une des choses qu'il faut savoir, là, j'ai quelqu'un qui me posait une question cette semaine, revient avec cette question-là qu'on se fait souvent poser, c'est quoi la différence entre le catholicisme et puis le protestantisme? Bien, une différence majeure, c'est que la théologie de l'Église catholique a toujours été en constante évolution. D'accord? Et comment est-ce qu'elle fait? On pourrait dire dans un sens la même chose avec le protestantisme, dans le sens qu'on on fait face à des questions sociales, on retourne vers les Écritures, on dit « Ouais, c'est vrai, l'Église n'a pas beaucoup réfléchi à ça, on va répondre à cette question-là. » Bonne question, hein? On a des questions de bioéthique maintenant, super importantes, mais l'Église ne s'est peut-être pas prononcée là-dessus, fait qu'on on va développer une théologie autour de ces questions-là, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ça que je parle lorsque je parle de l'évolution de cette théologie. Je parle de nouvelles doctrines, de nouveaux enseignements qui affirment des choses nouvelles. Et donc, lorsqu'on étudie, et là, je ne suis pas en train de médire contre l'Église catholique en sortant des choses que juste les protestants vont dire. Là. Non, non. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église catholique où il y a des publications qui sont faites. Et, par exemple, l'Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire que Marie, elle aussi, a été conçue du Saint-Esprit. C'est une doctrine très, très, très récente, ça, dans l'histoire de l'Église, d'accord? C'est l'Église catholique qui, progressivement, développe ces éléments-là. Elle veut asseoir sa théologie, ces nouvelles doctrines-là, sur une certaine autorité. Elle va puiser des choses, comme le purgatoire, par exemple, à l'intérieur des livres apocryphes. Puis là, le protestantisme arrive. Fait que ça, bien avant le protestantisme, avant le 16e siècle, au fur et à mesure, il y a des éléments qui sont ajoutés. Par exemple, un des grands facteurs dans la conversion de Luther, c'est quoi? Quelqu'un qui le sait? Quel est un élément qui était déclencheur lorsque Luther assistait à cette scène-là? Pardon? Les indulgences. Alors, il y avait un moine, Tetzel, qui se promenait. On était en train de récolter des fonds pour la construction de Saint-Pierre de Rome. Puis Tetzel se promenait avec un grand baril. Et puis il prêchait qu'il voulait l'entendre. Chaque fois que vous mettez une pièce de monnaie dans le grand baril et que la pièce teinte au fond du baril, une âme sort du purgatoire. D'accord? Luther entend ça. Il s'arrache les cheveux. C'est un théologien catholique qui enseigne sur l'Épître aux Romains, découvre l'Évangile à travers l'Épître aux Romains, boum, retour à l'Évangile, d'accord? Donc, leur théologie s'est développée comme ça. On a ajouté des éléments au fur et à mesure, puis il faut les asseoir sur une certaine autorité. Jusqu'à la Réforme au 16e siècle, l'Église catholique n'a jamais affirmé que les livres apocryphes, les livres que je parle de la période intertestamentaire que vous trouvez dans certaines Bibles catholiques maintenant, mais vous remarquerez qu'ils ne sont pas dans la même section que les autres. Si vous allez dans la table des matières, ils sont désignés comme des livres apocryphes ou des livres pseudépigraphes. Parce que bien que l'Église catholique, dans le débat contre, dans le combat contre Martin Luther, a voulu affirmer leur canonicité, elle n'a jamais osé les mettre sur le même pied d'égalité que le reste de l'Ancien Testament. D'accord? Et donc, vous ne trouverez pas dans les écrits des autorités, des écrits papaux, des choses comme ça, des conciles de l'Église catholique, l'affirmation qu'ils ont exactement la même autorité que le reste de l'Ancien Testament. Ils ne sont jamais allés jusque-là. Mais c'est sûr qu'une bonne partie de leur théologie est en train de s'effondrer. Énormément de jeux politiques à l'époque. On est en train de financer la construction de Saint-Pierre de Rome. Là. Fait que si le purgatoire ne tient plus, on est mal pris. D'accord? Il faut retrouver de l'argent ailleurs. Quand je dis tout ça, ce n'est pas avec... C'est pas avec méchanceté, d'accord? C'est pas avec sarcasme, c'est une réalité. Il y avait des grosses joutes politiques. Le pape avait un pouvoir de loin supérieur à la majorité des rois en Occident, d'accord? Un roi qui n'avait pas été béni par le pape avait très peu de chances d'accéder à la royauté. Très peu de chances. Et donc, le pouvoir politique puis les jeux dans l'arène politique à cette époque-là étaient énormes. Et c'est au milieu de tout ça que le protestantisme est apparu. Par exemple, un des débats que ça a amené, c'est celui-là. Alors, pour répondre à la question de François tout à l'heure, tous ces ouvrages-là, si vous voulez avoir une idée, j'espère que vous avez toute une bonne Bible catholique chez vous, vous devriez en avoir une. La majorité des traductions sont absolument excellentes, sauf qu'il y a quelques ajouts. Alors, vous allez voir la table des matières, puis vous lisez Maccabée cet après-midi. D'accord? Mais ces ouvrages-là, donc, qui sont là, n'étaient pas reconnus ni par le judaïsme, ni par le christianisme. Donc, l'Église catholique qui allait puiser dans ça jusqu'à la Réforme, n'affirmait pas que c'est inspiré de Dieu de la même manière. D'accord? Ils allaient puiser là-dedans. L'Église catholique construit sa théologie à travers les siècles en allant puiser dans des choses comme ça, en publiant des bulles papales, des choses comme ça, et là, on ajoute tranquillement la théologie dans l'Église catholique. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question, M. Fournier? Merci. Puis c'est ça, une des meilleures manières de vous convaincre qu'ils ne sont pas inspirés, c'est d'aller les lire. Prenez le temps d'aller les lire. Pour plusieurs d'entre eux, certains d'entre eux affirment carrément qu'ils ne le sont pas. d'autres, mais par leur contenu, vous voyez que ça va être étrange un peu. Je m'excuse, je vais avancer, je m'excuse, genre, parce que je vois qu'il me reste 15 minutes pour couvrir le Nouveau Testament. Alors, on se tourne maintenant vers le Nouveau Testament. C'est là qu'il y a plus de discussion, d'accord? Parce que contrairement à l'Ancien Testament, où on a reçu le canon arrêté comme ça, reconnu par les Juifs depuis des siècles, dans le cas du Nouveau Testament, on a l'histoire, en quelque sorte, de la formation de ce recueil-là de 27 livres qui forment le Nouveau Testament. Est-ce que les livres qui composent le Nouveau Testament ont été choisis et formés pour nous présenter un Jésus mythique, alors qu'il ne serait qu'un rabbin ordinaire ou un prédicateur gnostique? Alors, chez les érudits, chez ceux qui ont étudié la question sérieusement et qui remettent en question la canonicité des livres du Nouveau Testament, la formation de ce canon-là, il va y avoir des discussions, par exemple, par rapport à la gnose, des choses comme ça. Est-ce que dans le fond, au début, le christianisme n'était pas plus gnostique, puis on a juste tassé tout le gnosticisme, des choses comme ça, d'accord? Est-ce que vraiment on voyait, est-ce que les apôtres reconnaissaient la divinité de Christ? Des choses comme ça. Toute l'idée plus populaire de dire que, dans le fond, il y a une espèce de vrai Jésus qu'on est incapable de voir maintenant parce que il a été mythifié, ce Jésus-là. On a mythologisé. Et donc, on en a fait un mythe extraordinaire. On l'a élevé. On a voulu en faire un dieu, d'accord? Vous allez trouver plus ça dans des écrits populaires. L'homme qui s'est fait Dieu. Des ouvrages comme ça, d'accord? Beaucoup moins fouillés, parce qu'on peut pas... on spécule, dans le fond. Je veux dire, est-ce que Jésus a fait un miracle? Mais c'est les témoins du miracle qui peuvent l'affirmer. À part de ça, il faut que je me fie aux témoignages, vous comprenez? Est-ce que Jésus est ressuscité des morts ou non? Puis là, aller affirmer que non, il n'est pas ressuscité des morts, c'est les chrétiens qui ont inventé cette histoire-là. Ben, peut-être, mais tu vas me le prouver comment? C'est eux qui étaient témoins et toi, tu n'étais pas là. Donc, ceux qui veulent remettre ça en question vont essayer de montrer qu'il y a eu des jeux politiques. Donc, est-ce qu'il y a eu des jeux politiques qui ont fait que le christianisme officiel aurait exclu des ouvrages qui auraient dû faire partie de ça? C'est la question à laquelle on veut répondre pour le Nouveau Testament. Les livres qui forment le Nouveau Testament n'ont pas été choisis parmi d'autres ouvrages. Tout à l'heure, j'ai déposé la base de ça, d'accord? Car ils sont les seuls écrits chrétiens datant du premier siècle après Jésus-Christ. Donc, la bonne manière de répondre à cette question-là, même dans votre discussion avec quelqu'un qui vous pose des questions là-dessus, c'est de dire, regarde, tout le monde est d'accord pour dire que les livres qui sont dans le Nouveau Testament, là, ce sont les livres chrétiens les plus anciens. Tout le monde est d'accord. Va les lire, puis tu me diras si on a développé des affaires farfelues. Après, tu peux décider, là, c'est une autre question. Tu peux décider de dire que ces livres-là disent des choses fausses. Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que les chrétiens ont essayé de cacher quelque chose dans une grande conspiration mondiale avec le Vatican au service de la franc-maçonnerie et blablabla, avec des extraterrestres peut-être? Est-ce qu'il y a ça? Mais tout le monde, même les gens qui affirment ça, reconnaissent que les écrits qu'on a qui forment les 27 livres du Nouveau Testament, ce sont les livres chrétiens les plus anciens. Donc, va les lire, puis tu me diras si... c'est ce qu'on enseigne dans les églises, c'est conforme à ça ou non? Oui, Karine. Il me semble que les lettres circulaient déjà à travers les églises. Oui, alors Karine dit les lettres circulaient déjà parmi les églises au premier siècle. C'est vrai, d'accord? Mais la question, c'est est-ce qu'il y en avait d'autres lettres? Est-ce qu'il y avait une autre lettre de Paul qui était en circulation? Est-ce qu'il y avait un Apocalypse de Pierre qui était en circulation? Non. Est-ce qu'il y avait un Évangile de Thomas qui était en circulation? Non, il n'y en avait pas. Ce sont tous des livres que tout le monde va reconnaître daté entre le 3e et le 5e siècle. Oui, brièvement.
Il n'y a pas en circulation, mais il y a clairement un
2e
Corinthien, un 2e Corinthien entre le
2 et le... Oui, là, c'est une autre question. C'est une autre question. OK. Voyons, on peut prendre 75 millions de rabbit trails. Est-ce que je suis en train de dire ce matin que les 12 apôtres n'ont jamais rien écrit d'autre sur un bout de napkin? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais écrit une autre lettre? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a une lettre qui nous manque entre 1 et 2 Corinthiens. C'est clair, lorsque tu essaies de reconstituer l'histoire, c'est assez évident au niveau des événements. Dieu a décidé que celle-là n'était pas là. Mais elle n'est pas cachée, elle n'est pas en circulation. On l'a pas, ça finit là. Puis voyant le volume d'écriture que Paul avait, moi je suis convaincu qu'il a écrit d'autres lettres que ça, le monsieur. D'accord? C'est juste un hyperactif, là. OK? C'est évident. Oui. OK. Alors, oui, donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres écrits qui ont été écrits par ces gens-là à cette époque-là? Bien sûr. Bien sûr que oui. Ils ont enseigné d'autres choses aussi. Il y a même, surprise, aux surprises, Jésus a dit beaucoup d'autres paroles. C'est ce que Jean affirme, d'accord? Mais Dieu a dirigé. C'est ça notre conviction. C'est ça. C'est en plein ça. Mais l'Évangile selon Thomas a été écrit plus tard. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Donc ça, c'est important. Okay? Comme je vous dis, là, je sais qu'il y a des éléments techniques. Il y en a qui ne retiendront pas tous les volets, tous les aspects techniques de tout ça. Mais l'argument fondamental pour l'Ancien Testament, c'est que les Juifs nous l'ont toujours transmis comme ça. Et eux qui ont hérité de ce livre-là, et Dieu sait que ce ne sont pas des gens pur et sans tâche sur le plan moral, éthique et spirituel, on s'entend. C'est même des gens qui étaient un peu portés vers d'autres religions. Êtes-vous d'accord avec moi, les Juifs? Ils étaient quand même un petit peu portés à explorer ailleurs que dans le judaïsme. Ils aimaient bien se sculpter, se gosser deux, trois idoles, d'accord? Mais ils nous l'ont transmis comme ça, puis il n'y avait pas de discussion. Ils n'ont pas essayé de nous mettre un livre de l'histoire d'Astarté, tu sais, qui aurait été la femme de Dieu. Non? Non, c'est super orthodoxe, super simple. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits beaucoup plus tôt que ceux qui suscitent la polémique. Les théologiens conservateurs et libéraux, voici la marge de débat entre les deux, débattent à savoir si les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, hein, très, très communes, on ne sait pas est-ce que l'évangile de Marc aurait circulé, puis Luc serait parti de Marc pour après ça faire ses recherches. Puis il y a toutes sortes de discussions parmi les conservateurs aussi, d'accord? Sur ça, c'est vraiment trois évangiles qui sont très, très similaires à bien des égards, contrairement à l'évangile de Jean. Mais le débat, c'est est-ce que Matthieu, Marc, Luc et ainsi que Actes ont été rédigés en 60, en 70 ou en 80? Pas en 100 ou en 300, d'accord? Donc, c'est juste pour vous dire, c'est là que les débats se situent. Fait que lorsqu'on vous arrive puis on vous dit, ben là, on ne peut pas s'y fier, on est dans des éléments. C'est vrai que ça fait des différences lorsqu'on va les étudier, puis ça peut nous aider à comprendre des textes, mais ça ne remet pas en question leur validité. L'évangile de Jean, autour de 90, on pense que c'est probablement le dernier des apôtres qui est décédé, l'apôtre Jean, d'accord? C'est ce que la tradition nous dit, puis pour autant qu'on peut comprendre, les érudits aussi vont dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, à l'exception de la Didachée, alors il y a un livre, il y a un seul livre qui est apparu très tôt, la Didachée, qui présente un enseignement somme toute orthodoxe. Seuls 16 ouvrages datent du 1er siècle. D'accord? Donc, il y a juste la Didachée, qui est une espèce de manuel du repas du Seigneur, manuel du baptême, manuel de la formation des disciples, pas mal conforme avec l'enseignement du Nouveau Testament. Il y a juste cet ouvrage-là qui est à peu près aussi vieux que les autres. D'accord? Mais encore là, ce n'est pas un ouvrage qui apporte des enseignements, une théologie que les chrétiens ont déclarée après hérétique. D'accord? C'est un enseignement qui est conforme avec le Nouveau Testament. Donc, sans l'ombre d'un doute, les chrétiens écrivaient d'autres choses que juste ces livres-là, puis ils se permettaient d'écrire après. D'accord? Et donc, on a cet ouvrage-là qui est ancien. Les écrits de Paul, à l'exception des... Il faut vraiment que j'accélère parce que j'ai des petites questions techniques à voir avec vous. Les écrits de Paul, à l'exception des épîtres dites pastorales, 1, 2, Timothée, Tite, Philémon, ne sont aucunement remises en question et sont datés des années 40 à 60. Quand je dis qu'elles ne sont plus remises en question, c'est qu'elles ne l'ont pas été même pendant les premiers siècles, d'accord? Aujourd'hui, l'Église universelle s'entend sur quels sont les livres qui font partie du Nouveau Testament. Dans les quelques premiers siècles, il y a eu des discussions sur quelques livres. Ce ne sont pas sur les lettres de Paul. Ce ne sont pas sur la première lettre de Pierre, 1 Jean non plus. Les épîtres de 1, 2, Timothée et Tite ont été rapidement reconnus aussi. Alors, dans le Nouveau Testament, les livres qui ont suscité des questions, puis il y en a un qui, des fois, suscite encore un peu des questions, mais ce sont les suivants. Hébreux, Jacques, 2 Pierre, 2, 3 Jean, Jude et l'Apocalypse. Ça s'est réglé assez vite quand même comme discussion. À l'intérieur des premiers siècles, l'Église avait reconnu tous ces livres-là comme faisant partie du Nouveau Testament. Et regardons rapidement un peu qu'est-ce qui a suscité des discussions. Bien, dans le cas de la lettre aux Hébreux, c'est qu'on ne connaît pas l'auteur. Et puis, une des règles que l'Église se donnait, c'était pas formel, c'était comme sous-entendu, c'est que pour qu'un livre soit reconnu comme faisant partie du canon du Nouveau Testament, il devait avoir été écrit par un apôtre ou un proche des apôtres pour qu'il puisse aller parler avec les témoins oculaires, puis aller valider ceux qui ont entendu les enseignements de Jésus, s'assurer que ce qu'on est en train d'écrire ici est conforme aux enseignements de Jésus et ce qu'on dit que Jésus a fait est conforme à ce qu'il a fait. C'est juste logique. Dans le cas de la lettre aux Hébreux, on a vraiment un bug. On ne connaît pas l'auteur. Alors, il y en a qui ont spéculé, ils ont dit, bon, mais c'est Paul qui a écrit ça. Pardon? Ben, c'est une des questions que je veux poser au Seigneur lorsqu'on va aller au ciel. Mais elle n'a pas de signature là-dessus, pas d'empreinte digitale, rien. On ne l'a pas. Donc, il y a eu toutes sortes de spéculations. Certains ont dit, c'est Paul. Le problème, lorsqu'on étudie, chaque personne a une plume. Hein, on écrit avec un vocabulaire, un style, des structures de phrases, tout ça. On a tous des manières différentes de s'exprimer. Ça ressemble vraiment pas à Paul, ce qui est écrit ici. Donc, il y a peu de gens qui vont le reconnaître. Donc, l'Église a statué, quand je dis l'Église, là, je parle de l'ensemble des églises de l'époque, a statué que ça avait été écrit par un des proches, probablement un disciple de Paul, d'accord? Parce que tout ce qui est dedans est 100% conforme avec l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament. Et plus, là, parce que ça nous aide à avoir des lumières même sur une grande compréhension de l'Ancien Testament, entre autres. D'accord? C'est un livre vraiment précieux. Mais encore une fois, ce n'est pas un livre qui sert à cacher, à éloigner des choses qui sont dites par d'autres mouvements, tout ça. L'Église a reconnu la lettre aux Hébreux assez vite. L'Épître de Jacques, on est dedans, l'Épître de Jacques. Martin Luther lui-même l'a appelé comment? L'épître de paille, parce que ce n'était pas construit sur un fondement solide, ça disait que hein, Abraham a été justifié par les œuvres. On voit ça ensemble ce matin, tout à l'heure, d'accord? Alors, mauvaise compréhension, je dirais, de Jacques. Jacques, c'est quelqu'un qui ne tolère pas les blablateurs de la foi, qui disent être des chrétiens, mais chez qui ça ne se manifeste pas. Et donc, il dit, si tu n'as pas d'œuvre pour démontrer ta foi, c'est que tu n'en as pas de foi. C'est ça que Jacques dit. Donc, ça amène Jacques à dire, dans un sens, ce qui montre que tu as été justifié ou que tu es juste, c'est que tes œuvres sont là pour appuyer ta foi. D'accord? Et donc, ça a suscité des débats. Est-ce que Jacques est en train de s'opposer à l'enseignement de Paul sur le salut par grâce? Ce n'est pas des débats qui ont été sérieux. Comprenez? L'Église ne s'est pas déchirée pour dire, il ne faudrait pas que Jacques soit là, tout ça. C'est certains enseignants qui disaient, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. D'accord? Et donc, Jacques a été reconnu aussi très tôt comme faisant partie du canon. Deux Pierre a un style qui détonne un peu avec un Pierre. L'hypothèse que l'Église a retenue, c'est que c'est probablement un secrétaire qui a écrit pour Pierre, la lettre de Deux Pierre. Dans certains des livres du Nouveau Testament, là, je me souviens plus laquelle, une des lettres de Paul, à la fin, on a l'indice clair que c'est un secrétaire qui écrit pour lui parce qu'il salue. D'accord? À la fin, il se nomme le secrétaire. Et donc, Paul pouvait être là, puis travailler avec un disciple, puis travailler sur sa lettre des fois pendant des mois, s'il était en déplacement, pendant quelques semaines, des choses comme ça. Et donc, travailler avec un disciple. La lettre de Deux Pierre, le style de la plume est un peu différent d'un Pierre. Et donc, l'Église a déduit, parce qu'il n'y a pas d'enseignement là-dedans qui vienne détonner avec les écrits bibliques. La lettre date du 1er siècle, comme les autres lettres. L'Église la reconnaissait massivement comme une lettre qui était de Pierre. Et donc, ils se sont dit probablement que c'est un secrétaire qui l'a écrit pour lui et que ça, c'est venu affecter un peu le style, d'accord, de son écriture. 2 Jean, 3 Jean, Jude, il y a des gens qui ont posé des questions parce que c'était trop court. Ils se disaient, c'est trop court, fait que ça ne mérite peut-être pas d'y être, d'accord? Mais finalement, il y a des éléments qui sont importants dans ces lettres-là aussi. Et ça aussi, ça a été reconnu tôt. Et puis l'Apocalypse, ben ça va de soi. Il se demandait si le gars avait consommé du bon stock, comme on dit au Québec, lorsqu'il a rédigé cette lettre-là. C'est un ouvrage dans un genre qui est le genre apocalyptique, d'accord? Et donc, il y a des éléments de lettres dedans. Et puis, il y a des éléments de prophétie, de vision de la fin des temps. Mais encore une fois, l'Église l'a reconnu très tôt. C'est en fait celle qui a demandé un peu plus de temps, c'est la lettre aux Hébreux, c'est pas l'Apocalypse. Pardon? Hébreu, là, ça a été comme final, on n'a plus jamais entendu parler lorsqu'on arrive au 6e siècle. Il n'y a plus personne qui a suscité cette, qui a soulevé cette question-là. Mais elle était largement reconnue avant ça. D'accord? Mais il n'y a plus personne qui soulève une question après le 6e siècle. Pour Hébreu, c'est la dernière. La manière qu'on étudie ces choses-là, c'est qu'on on relève chez les écrits des pères de l'Église, on relève des listes. Donc, vous avez un écrit d'Origène où il fait la liste des ouvrages qui, pour lui, sont les ouvrages inspirés. Puis là, on compare ces listes-là, on regarde les arguments lorsqu'il y a des réserves. Puis on essaie de comprendre à quel moment toutes ces discussions-là ont complètement cessé. D'accord? Je vais devoir faire un sprint de 5 minutes pour terminer. Parce qu'autrement, ça va être vraiment trop détaché dans la suite. Pour quelle raison est-ce que certains livres ont été exclus? Mais là, on parle des livres un peu comme je vous ai dit. Là, vous avez une liste au bas de la page 4. Les Actes de Paul, 1, 2 Clément, Psaume de Salomon, Prédication de Pierre, 2 Voix, Constitution apostolique, Sirac, la Didachée, l'Évangile selon Thomas. Il y en a plein d'ouvrages, d'accord? Une chose, je vous dirais l'argument le plus important. Quand les gens, si vous entendez dire « Oui, mais ils ont exclu des affaires, tout ça », même les gnostiques qui enseignaient à partir de ces écrits-là, vous n'allez pas trouver d'écrits chez les gnostiques qui disent que ces livres-là devraient être reconnus comme des livres inspirés de Dieu. Ils enseignent à partir de ces livres-là, mais eux-mêmes n'essaient pas de les mettre sur le même pied d'égalité que le reste du Nouveau Testament. Puis là, nous, on arrive des siècles plus tard, puis on dit, ah, vous voyez, on exclut ce livre-là, il était là parce qu'il enseignait quelque chose d'autre. L'Église, à tel concile, a rejeté cet enseignement-là comme un enseignement hérétique. C'est vrai que l'Église a rejeté ça comme un enseignement hérétique, mais ces hérétiques-là prétendaient pas que leur écrit, c'était un écrit digne du Nouveau Testament. Donc, tu veux reposer la question aujourd'hui? Prends ton Nouveau Testament, va chercher l'Évangile selon Thomas, mets ça côte à côte, puis fais une bonne étude. Puis tu vas répondre aux questions toi-même. D'accord? Tu vas conclure que oh, c'est non, ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc, vous avez un résumé là, en quelques points. Vous avez 5 points, je vous laisse les lire. Les raisons qui nous amènent et qui ont amené l'Église à ne pas les intégrer dans le Nouveau Testament, non plus aujourd'hui, vous les avez là. Quels sont les critères de canonisation? Encore une fois, c'est pas quelque chose que Jésus a dit à Pierre, puis Pierre l'a écrit, puis il a dit « Voici les 4 critères, comme ça vous allez savoir, d'accord? » C'est comme une espèce de sagesse spirituelle, de gros bon sens qui s'est imposé dans l'ensemble de l'Église. L'apostolicité, comme j'ai mentionné, ça veut dire ça a été écrit par des apôtres ou des proches des apôtres. La catholicité, souvent les protestants ont de la misère avec ce mot-là, catholique, ça veut juste dire universel. Donc, est-ce que ces écrits-là étaient largement, universellement reconnus par l'ensemble des églises? Toujours cette espèce d'idée très biblique qui dit que tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux, et donc il n'y a pas une église qui doit statuer pour les autres. L'ensemble des chrétiens sont là pour se pencher sur les Écritures. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux, d'accord? Alors, quel est l'assentiment général de l'ensemble des églises? Et puis l'orthodoxie, c'est-à-dire, est-ce que c'était en conformité avec les enseignements de Jésus, avec les enseignements des apôtres? Jésus a confié aux apôtres le mandat de transmettre ses enseignements. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis, allez prendre l'Évangile selon Thomas, étudiez-le, comparez-le avec les enseignements de Jésus dans les Évangiles des apôtres. Vous allez voir, ça ne concorde pas. Donc, on les exclut, d'accord? Je vais terminer avec ceci. Excusez. Une des choses qui est à retenir aussi par rapport au Nouveau Testament, c'est que quand on lit seulement le canon de l'Ancien Testament, on s'en va de la Genèse jusqu'à Malachie, on perçoit, on comprend qu'on a une histoire qui est en suspens. D'accord? On a une histoire à laquelle il manque un chapitre. Parce que très, très tôt, la venue d'un Messie égal et supérieur même à Moïse, va être annoncé par Moïse lui-même. Et les prophètes vont... On sent que ça va pas. On sent que ça va pas avec les rois d'Israël. On sait, il y a des déportations, il y a des prophéties qui nous disent que Israël va être restauré. Donc, on est dans une histoire qui est en suspens, puis on attend ce Messie-là. D'accord? Lorsque j'arrive avec le Nouveau Testament, j'ai quand je le lis d'un bloc de A à Z, une fois que j'arrive à passer par-dessus toute la distance culturelle, tout ça, comprendre l'époque, lorsque je comprends l'enseignement qui est là, ce livre-là se tient de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai besoin du Nouveau Testament pour compléter cette histoire-là. Le Nouveau Testament complète parfaitement l'Ancien Testament. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ce corpus-là de 66 livres se tient malgré les 40 auteurs qui ont participé, le nombre de siècles qui ont pris à sa rédaction, se tient comme aucun ouvrage dans l'histoire de l'humanité. Ça se trouve pas ailleurs. Cette semaine, j'étais avec quelqu'un qui me posait des questions sur l'Évangile. Puis on parlait un petit peu de tout ça ensemble, puis j'ai dit, tiens, on va... Pas beaucoup de culture biblique, un peu de culture populaire quand même, intéressant. Mais j'ai dit, tiens, on va aller lire Ésaïe 53, le psaume 22, tu sais. Puis là, je les ai juste situés dans le temps. À quelle époque ces livres-là ont été écrits? Puis c'était évident pour lui qu'on est en train de parler de Jésus ici, d'accord? Et donc, on avait besoin du Nouveau Testament pour compléter l'Ancien Testament. Les 66 livres du canon protestant de la Bible, quand je dis canon protestant, c'est à cause des livres apocryphes, on a adressé ça tantôt, de la Bible, ont été bien choisis. Les Juifs n'ont pas erré en incluant les livres dans leurs écrits hébreux, et les chrétiens précédant la Réforme ont bien fait de ne pas canoniser les écrits apocryphes. Comme je vous dis, c'est au moment de la Réforme qu'il y a eu une espèce de manœuvre par l'Église catholique pour protéger certaines de leurs doctrines. L'ensemble des polémiques soulevées autour de la formation du canon n'est pas justifié, car l'Église n'a pas caché de littérature et les raisons qui l'ont amené à reconnaître 27 livres en particulier sont évidentes et s'imposent d'elles-mêmes aux lecteurs contemporains. Le meilleur remède, la meilleure réponse que vous allez toujours pouvoir donner à quelqu'un, c'est « Hey, as-tu déjà lu la Bible, maintenant qu'on en parle ensemble? Si ça te tente, je peux t'accompagner un petit peu là-dedans, puis on va lire ça ensemble. » On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu es la parole, Seigneur, et si à quelque part dans ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai pu manquer de respect ou j'ai pu errer dans ce que j'étais en train de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est vraiment d'un livre saint dont on parle. C'est un livre, Seigneur, qui apporte la vie, qui explique tout ce qui est essentiel, Seigneur, à l'être humain pour guider son cœur vers toi et guider son cœur vers l'éternité, Seigneur, pour te connaître personnellement. Merci pour ta sainte parole, Seigneur. Aide-nous à l'étudier, à la connaître, à la vivre, et à savoir aussi la défendre pour être prêt à rendre compte de notre foi, Seigneur, en toute circonstance, Seigneur. Et je te prie, Père, de sauver des milliers de personnes à Longueuil qui, sous notre proclamation de l'Évangile, vont venir à te connaître personnellement, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.